Pure Politique.
C'est une tendance à la mode depuis quelques années, elle rencontre toujours plus de succès. Les zones 30 sont de plus en plus nombreuses à voir le jour dans les rues de nos villes et villages. On y voit un motif clair d'amélioration de la sécurité et de réduction du bruit notamment. Mais ces limitations de vitesse sont aussi décriées. Améliorent-elles vraiment la situation ou au contraire créent-elles trop de contraintes? On ouvre le débat, bienvenue dans Pure Politique.
RFJ, Pure Politique. Raphaël Chalvera.
Et pour les échanges de ce soir, nous accueillons la secrétaire générale de l'ATE Jura, l'association Transport et Environnement. Bonsoir Christelle Vallin.
Bonsoir.
L'ATE en faveur des zones 30 qui améliorent selon elle la qualité de vie. Ce n'est pas le cas de Pascal Prince. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'association Mobilitant.org, créée en 2008, association qui estime que les zones 30 ne tiennent que rarement leurs promesses. Vous avez mené plusieurs combats contre leur implantation. Soyez tous les deux les bienvenus. Nous allons tout d'abord entendre vos divers arguments pour ou contre ces zones 30, puis nous évoquerons le cadre légal pour leur implantation. Pour ouvrir la discussion, je vous propose tout d'abord de prendre la direction de Saint-Bray. La traversée du village se fait désormais à 30 à l'heure. On écoute la maire Aline Erard.
Il y a entre 4 et 5 000 véhicules qui transitent tous les jours, donc c'est quand même un problème pour la traversée du village et surtout pour les gens qui y habitent. Donc les gens qui y habitent sont satisfaits de cette réglementation nouvelle, parce que pour la sécurité, c'est quand même appréciable que les gens passent moins vite. Les enfants vont à l'école aussi, les gens sont au milieu du village, donc je pense que c'est aussi pour ça que les automobilistes doivent comprendre que pour quelques centaines de mètres, c'est important pour les gens qui habitent là et qui sont tout le temps dans ce village d'avoir une limitation à 30.
Pascal Prince, important d'avoir une limitation à 30 à Saint-Bray, dit Aline Erard. Elle évoque la sécurité des villageois et des écoliers. Sur l'aspect sécuritaire, vous n'êtes pas convaincu?
Pas du tout. Si je regarde, j'avais eu l'occasion de discuter avec Mme Erard. Il y avait eu 28 accidents sur les 10 dernières années, donc ça fait 2,5 accidents, on dit 3 accidents par année. Et la zone 30 donne de toute façon un très mauvais sentiment, un faux sentiment de sécurité. On imagine que c'est pas grave, de toute façon les gens roulent à 30 à l'heure et on est beaucoup plus téméraire. Et le grand problème, c'est que cette limitation, c'est pas seulement quand il y a des enfants qui sont dans la rue, c'est en permanence. 24 heures sur 24, à 3 heures du matin, la même chose. Et là, c'est totalement excessif. Et quand on me dit que c'est pour la sécurité, je rappelle quand même qu'il y a 3 semaines en arrière, durant le week-end, le radar était dans la zone 30 de Saint-Bray, juste en face de l'école. Par contre, les écoliers, je crois qu'ils n'étaient pas à l'école.
Christelle Vallin, le BP a dit que le 30 à l'heure diminue le risque d'accident avec blessure de 25 à 30%. Il permet même d'éviter un accident grave ou un décès sur deux sur les axes principaux. Est-ce que c'est bien une réalité? Un conducteur peut toujours être distrait et un enfant croire qu'il y a moins de danger et davantage exposé, non?
Alors, on peut quand même imaginer que si on regarde un petit peu, quand on roule moins vite, on va parcourir une distance un peu plus courte pour se rendre compte, par exemple, qu'il y a quelqu'un sur la route ou qu'il y a quelqu'un qui veut traverser la route. Donc, je pense qu'il y a des arguments comme ça qui montrent quand même que, a priori, si on va plus lentement, c'est plus facile de réagir et puis les conséquences sont moins graves. Puis après, il y a aussi ce côté d'un piéton qui se fait percuter à 50 km/h. Il aura des séquelles où il sera bien plus blessé que s'il se fait percuter à 30 km/h.
Quand Pascal Prince évoque par exemple la nuit, 3 heures du matin, vous partagez cet argument-là de dire la nuit, on pourrait quand même rouler à 50?
Alors pour moi, c'est un changement de vision de la rue. Et puis je pense que dans le fond, du 30 km/h, c'est quand même de permettre à chacun d'être en sécurité dans la rue, que ce soit à n'importe quelle heure.
Le 30 km/h, il faut le tenir quand on est au volant. La limitation est respectée par moins d'un automobiliste sur deux. Ce sont les statistiques qui le disent. Il y a quand même un problème là. Si on traverse une zone 30 à 40, c'est pas tout à fait respecté.
Alors, si on traverse une zone 30 à 40, c'est déjà mieux que si on la traverse à 60 parce que c'est limité à 50 km/h. Après, moi, je ne connais pas ces statistiques-là de voir à quelle vitesse roulent les automobilistes. Et puis, effectivement, il y a une tendance à aller plus vite parce qu'en fait, c'est difficile de rester à une limitation. En fait, soit on met un tempomètre, soit on s'arrête. Soit on accélère, pardon.
Pascal Prince, plus de contrôle pour plus de respect, ça vous parle?
Non, pas du tout. C'est plus de contrôle pour plus d'argent. Ce n'est pas pour rien que les limitations n'ont cessé de diminuer depuis les années 70, quelles qu'elles soient, et aussi les zones 30, on les met partout. Moi, je pars juste de l'origine des zones 30 qui étaient pour les accidents, pour diminuer les accidents. Le canton de Zurich, via son parlement, avait été obligé de faire une étude sur 28 zones 30 qui avaient été introduites. Il n'y avait aucune possible, il y avait aucune perception d'amélioration au niveau en termes d'accidents, parce que les quartiers résidentiels dans lesquels ils ont été mis, c'est les exceptions des exceptions des exceptions des exceptions des exceptions. Je vous ai plus de chances de ramasser une météorite que de vraiment avoir un grave accident dans ces zones résidentielles. Et le chef de la police cantonale zurichoise avait clairement dit une phrase très simple, il n'y a pas de Il n'y a pas d'amélioration. Et en détail, dans ces, sur ces 28 zones qui avaient été étudiées, toutes les zones où la vitesse moyenne était inférieure à 30 à l'heure avant la mise en trop zone 30 ont subi une augmentation de la vitesse. Donc c'est contre-intuitif de dire on met une limitation, tout ira bien, tout le monde respectera et puis on va diminuer. Et de plus, pour un accident, il y a la dynamique des masses qui fait que si vous vous êtes percuté à 50 km à l'heure, vous serez éjecté de l'impact. À 30 km à l'heure, vous serez absorbé par le véhicule. C'est assez surprenant, mais j'ai trouvé une étude en Angleterre où ils ont fait des tests d'accident à 30 ou à 50. Et à 50 km à l'heure, la personne est éjectée. Et, tandis que le véhicule crocherait la personne. Et d'ailleurs, ça se voit dans la ville de Zurich, où ils ont introduit énormément de zones 30. Et les accidents qui connaissent les plus grandes augmentations, c'est en tout premier lieu, avec 28% d'augmentation, c'était les accidents avec alcool. Et ensuite, avec 27% d'augmentation, les accidents dans les zones 30. Parce que justement, les gens ne font plus attention.
Alors, on va peut-être laisser répondre Christelle Valla par rapport à ce que dit Pascal Prince. Déjà, plus de chances de s'attraper une météorite que de provoquer un accident. Et puis finalement, le fait que la gravité de l'accident entre le 50 et le 30... C'est plus ou moins kiff-kiff.
Oui, bon, moi, je n'ai pas une analyse comme ça sur cet aspect thermodynamique qui fait que quand on est percuté à 30 km heure, on passerait plus sous la voiture. Moi, je connais la quantité je ne sais plus comment ça s'appelle, le fait que quand on a deux objets qui se rentrent l'un dans l'autre, celui qui est le plus lourd, et puis c'est en lien entre la vitesse puis le poids en fait qui fait que on est éjecté plus loin ou pas. Enfin donc ça, il y a quelque chose que bon, je sais pas, je peux pas répondre par rapport à ça.
Mais pour vous, c'est quand même moins grave si on est percuté à 30 qu'à 50. Ça, la
alors,
TE le dit,
moi,
le BPA le dit.
Alors la TE le dit, il y a le BPA qui le dit, et puis etc. Donc oui, je pense que certainement c'est le cas. J'ai pas trouvé de statistiques qui montraient que je suis pas allée regarder s'il y avait moins d'accidents, si les accidents étaient moins graves pour l'instant. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? J'en sais rien. Je pense que sur Saint-Bray, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il en est non plus, à mon avis.
En termes de fluidité du trafic cette fois avec les zones 30, est-ce qu'on ne crée pas un danger supplémentaire si la circulation est dense, Christelle Valla ?
Est-ce qu'on crée un danger supplémentaire si la...
Les opposants de bouchons, par exemple. Enfin, voilà, on roule au pas, les véhicules se collent. Ça peut aussi peut-être créer davantage de dangers que des distances entre deux véhicules à 50.
Donc là, on est en train de parler du principe de... De nouveau, je ne sais plus le nom, mais c'est bien de dire qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de véhicules à un endroit au même moment ? C'est aussi le nombre de véhicules qui arrivent. En fait, on faut travailler sur une quantité, mais par tant de secondes, ou le nombre de véhicules qui passent à un endroit par temps, en fait. Donc non. Non, si, par exemple, sur l'autoroute, on fait ralentir les voitures, je ne sais pas moi, à Boncourt ou à Porrentruy, il y aurait moins de... Si les voitures à partir de Porrentruy rouleraient à 80 km/h, il y aurait moins de bouchons à l'arrivée au tunnel, par exemple.
Parce qu'après, vous souhaitiez réagir ?
Alors là, pour rester dans les zones 30 et dans les villes, non, c'est exactement le contraire qui se produit. On a la ville de Vienne qui a connu des changements politiques avec une politique plus écolo, plus en faveur des zones 30. Ils ont piétonnisé et agrandi trois fois plus grand, si mes souvenirs sont bons, les zones à limitation. La courbe des accidents a augmenté parce qu'il y avait beaucoup plus de trafic sur les autres rues. Et quand il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de potentiel d'accident, beaucoup plus que quand il y a moins de trafic. Et ensuite, la politique a changé. Ils ont supprimé une grande partie de ce qu'ils avaient fait en zone 30 et en zone piétonne. Et la courbe des accidents a diminué aussi. Et donc ça, c'est des faits. Hein. C'est juste des faits concrets qu'on peut demander, qu'on peut trouver sur Internet. Et au niveau des accidents, la ville de Graz a été la pionnière en Europe à introduire le 30 km/h généralisé sur les grands axes. Et à partir de 1993, la première année complète où il y avait la zone 30, moi j'ai les chiffres jusqu'en 2021, j'ai arrêté parce que malheureusement, c'était plus facile, j'avais plus le temps pour m'occuper de ces dossiers-là.
Vous dites quand même, pardonnez-moi, parce que
ça fait 3 accidents de moins en 20 ans, et sur les 20 ans, il y a eu 12 années qui avaient plus d'accidents qu'avant l'introduction de la zone 30.
Vous mentionnez Vienne et puis Graz. On trouve aussi sur Internet qu'à Helsinki, depuis les zones 30, il n'y a plus d'accidents mortels non plus ou graves.
Alors, je n'ai pas trouvé les chiffres de Helsinki, mais je vais aller les chercher. Parce que souvent, quand on gratte un petit peu, on se rend compte effectivement qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'accidents dans ces zones-là. Avant, qu'il n'y ait plus du tout d'accidents, je ne pense pas que ça soit dû uniquement aux zones 30. Il y a une énorme amélioration des véhicules et de l'apprentissage de la conduite, et il y a un changement de mentalité aussi. On n'est plus dans les années 70. Je me souviens de l'ancien chef de la police jurassienne qui était venu dans tous les partis se présenter. Il avait expliqué que la criminalité routière, la délinquance routière était devenue... c'était du domaine du résiduel. Donc aujourd'hui, on n'a plus du tout, comme dans les années 70, on avait une dizaine de morts par année. Dans nos années, c'est plus dû au natel, au volant, il y a 3-4 morts par année. Donc la tranche urbaine a fait beaucoup plus d'effets sur les accidents que les zones 30 qu'on aurait pu mettre.
Rapidement, Pascal Prince, je voulais encore juste vous interpeller sur un autre domaine des opposants aux zones 30 qui parlent de perte de temps sur la route quelque part. Le BPA lui évoque 2 secondes pour 100 mètres quand on passe un secteur de 50 à 30 à l'heure. Est-ce que la perte de temps, selon vous, c'est un argument?
Alors, quand vous passez à 46 km à l'heure dans une zone 30, vous perdez votre permis pour minimum un mois. Vous multipliez le nombre de mois par le nombre de jours, vous trouvez le nombre d'heures et vous trouvez le nombre de secondes. Et vous arrivez à bien plus que 2. J'entends... On est en train de tirer au bazooka sur des mouches. Les accidents résidentiels dans les quartiers résidentiels au Jura, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Alors là, on est en train d'en mettre partout pour un problème qui n'existe pas.
Alors là, c'est très fort les propos de Pascal Prince. Je pense que vous avez une réaction.
Donc il y a les statistiques qui sont sorties sur les accidents qu'il y a eu cette année dans le Jura. Et puis, comme partout en Suisse, y a plus de la moitié qui sont dans les zones urbaines. Donc dans les zones 30 aussi, enfin dans toutes les zones d'habitation. Donc c'est quand même là sur lesquelles il faut travailler. Et puis, on est quand même à 6 morts cette année sur la route. Donc je pense que... Enfin, après, on peut dire que ce n'est pas grand-chose. Je pense qu'on peut viser un peu plus que ça, aller jusqu'au zéro.
Un autre aspect évoqué pour ces zones 30, c'est la diminution des nuisances sonores, davantage de calme, notamment dans les secteurs d'habitation. C'est positif, Pascal Prince, si on dit que la réduction des émissions sonores est de 3 décibels.
Alors c'est justement les 3 décibels qui est ridicule. L'oreille humaine capte des différences de son entre 5 et 10 décibels. Et c'est bien justement là le problème.
Le tribunal fédéral reconnaît quand même que c'est un effet positif.
Ouais, alors 3 décibels, oui. Alors... purement mathématiquement, c'est positif. Moi, j'ai des études qui disent que les zones 30 augmentent le bruit, mais ça, j'entends, c'est des études qui étaient faites en France. Chaque chicane, chaque dodane, chaque parquage alterné provoque une augmentation de bruit. Et dans les zones 30, si vous voulez qu'elles soient efficaces, vous êtes obligé de faire des aménagements. Si vous mettez juste un panneau, ça ne sert à rien du tout. Et justement, j'aimerais quand même une fois clarifier le mensonge que le BPA utilise pour affirmer que ces 3 décibels réduiraient de moitié l'impression, le sentiment, l'impression d'avoir diminué de moitié le trafic. Ce n'est pas vrai. Si vous avez 2 véhicules qui produisent 50 décibels, vous aurez un bruit de 53 décibels. Ça, c'est factuel, c'est scientifique, on ne peut pas aller contre. Par contre... si vous diminuez de 53 à 50 décibels, l'oreille humaine ne remarquera pas de différence.
Alors justement, Christelle Vallat, ça c'est un argument de l'ATE qui dit « les zones 30, ça améliore la qualité de vie ». Donc si on en croit Pascal Prince, ce n'est pas le cas. Quelle est votre réponse?
Oui, alors de nouveau, 3 décibels, on est dans une... comment on calcule ces 3 décibels? C'est une échelle logarithmique. Donc en fait, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas une échelle linéaire. Donc ces 3 décibels, effectivement, ça représente la moitié moins de bruit, oui. Effectivement, de bruit, ressenti. Moi, j'ai là aussi des témoignages, en fait, de personnes qui sont venues vers nous, parce qu'on a eu l'occasion aussi de croiser un petit peu des personnes comme ça, et qui relèvent le fait qu'effectivement, il y a moins de bruit, en fait, qu'ils le ressentent, parce qu'elles ont vécu avant que ce soit à 30 km/h, elles vivent maintenant pendant que c'est à 30 km/h, puis il y a bien une différence, en fait.
C'est pas psychologique, c'est réel.
Alors, voilà, Enfin, après, c'est comme beaucoup de choses, quoi.
Pascal Prince, rapidement.
Alors, moi, j'ai dans ma famille ma grand-mère qui habitait à la route principale à Develier. Et la semaine qui a suivi l'inauguration de la tranche Jurane et la fin du trafic dans le village a fait qu'elle n'a pas pu dormir pendant une semaine parce qu'elle n'avait plus le bruit de la circulation. Donc, et très sincèrement, cette histoire de bruit qui pose un problème de santé, je peux vous garantir que tous les automobilistes subissent beaucoup plus de pression et beaucoup plus de dégâts dans leur santé avec le stress pour des limitations qui ne sont pas naturelles, qui sont artificielles, arbitraires, et ça au quotidien, tous les jours.
Christelle Ballat, avec les zones 30, on parle d'une meilleure cohabitation entre tous les usagers de la route, les riverains. Est-ce que c'est vraiment le cas si on imagine que le nombre de voitures de passage ne va pas forcément diminuer ?
Alors pour l'instant, dans le Jura, on est quand même dans un ordre de grandeur où on peut encore partager la route. Je pense que la problématique, elle n'est pas la même quand on se retrouve dans une grosse artère, dans une grande ville. Hein. Mais si on reste sur le Jura et puis sur la majorité des villages dans le canton du Jura, la cohabitation elle est tout à fait possible à cette vitesse-là. Ouais. Tout à fait. Puis le but, c'est bien d'aller vers cette cohabitation pour aussi éviter de devoir construire plus de routes, en fait. Si on veut séparer tous les usagers, eh ben, il va falloir construire deux fois plus de routes ou bien de lieux de locomotion.
Est-ce qu'on favorise véritablement le vélo et la marche dans les zones 30? C'est aussi un des arguments de dire voilà, tous les usagers doivent sentir à l'aise.
Ouais. L'idée, c'est de dire que pour l'instant, en tout cas, qu'on soit à pied ou qu'on soit à vélo, le moyen central de se déplacer, c'est la voiture. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui sont autrement qu'en voiture doivent se mettre sur le côté, laisser passer la voiture. C'est la voiture qui est prioritaire. L'idée, c'est de rééquilibrer tout ça et puis peut-être même d'aller jusqu'à mettre en fait celui qui est piéton, celui qui est cycliste en avant, les usagers les plus vulnérables, qui soient eux prioritaires sur la route en fait. Voilà.
Si on favorise véritablement le fait de sortir à vélo ou à pied, puis, parce qu'on est dans une zone 30.
Alors après, c'est le sentiment d'insécurité sur la route, en fait. Et puis, du coup, c'est de dire, est-ce que finalement la zone 30 permettra d'être plus en sécurité sur la route et puis de se sentir avoir une place plus légitime. Donc je pense que c'est le cas.
Alors justement, Pascal Prince, si les piétons et les cyclistes peuvent être favorisés finalement dans un esprit de développement de la mobilité douce et que les zones 30 y contribuent, c'est plutôt positif, non ?
Non.
Non.
C'est très simple, il y a une inversion de la victime. Si vous voulez bien, un piéton, il peut s'arrêter sur une distance de 0 mètre. Il circule à une vitesse, enfin il marche à une vitesse qui lui permet d'avoir un grand éventail de sa vue, et il ne maîtrise que son corps. Un automobiliste, il doit maîtriser énormément de paramètres, notamment sa vitesse, ce qui se passe aux environs, devant, derrière, sur les côtés. Il peut intervenir n'importe quoi, à n'importe quel moment. Et en donnant la priorité aux piétons, en donnant aux piétons le droit de faire n'importe quoi, ils font n'importe quoi.
Oui, parce qu'on précise qu'il n'y a pas de passage piéton dans les autres. C'est pas une problématique, ça, Christelle Ballat ?
Alors, de nouveau, je ne pense pas que les piétons fassent n'importe quoi, parce que c'est quand même, s'il y a un accident, c'est quand même eux qui sont victimes. C'est quand même le piéton qui va se faire renverser, qui aura plus de genoux pendant toute sa vie. Donc, en fait, les gens ne vont pas se jeter sur les voitures.
Ça, c'est pas vrai du tout. J'ai justement un collègue président d'une commission du personnel qui est venu un jour à la commission avec une jambe cassée. Il habite Saint-Gall, zone 30 dans pratiquement toute la ville. C'est allé jusqu'au tribunal fédéral d'ailleurs. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, je me suis fait renverser. Pourtant, j'ai vu l'automobiliste, il roulait doucement. Je pensais qu'il m'avait vu, mais il ne m'a pas vu. Donc, il ne s'est pas enlevé. Il ne s'est juste pas enlevé. Donc, j'entends, je veux bien qu'on ne saute
pas sur la route. C'est quand même un cas très particulier, là. On ne peut pas faire une généralité de ce cas-là.
C'est un élément, c'est un fait de mon quotidien. Il y a l'homéostasie du risque. Si je vous offre un morceau de gâteau aux cerises, puis que je vous dis que j'ai dénoyauté, vous allez croquer dedans sans problème. Si je vous dis que je n'ai pas dénoyauté, fais attention, vous allez faire attention. Et c'est marrant parce que j'avais eu l'occasion de lire un article dans Le Matin Dimanche, toute une double page qui était sur un Canadien qui s'était dit « Mais c'est bizarre, les oiseaux s'envolent plus vite ou moins vite en fonction de la limitation de vitesse où ils se trouvent. » Il s'est dit « C'est quand même pas possible que les oiseaux aient une conscience ou une connaissance des limitations de vitesse. » Eh bien si, à force que les véhicules roulent lentement ou plus vite, les oiseaux adaptent leur... Et d'ailleurs, j'ai vérifié moi-même ici, les corbeaux sombreront plus vite sur une autoroute que dans une rue.
Il y a moins de risques de collision entre eux aussi.
Voilà. Pour dire
que même les oiseaux adaptent leur comportement en fonction des éléments qu'ils ont, l'être humain ayant la faculté d'avoir des droits, de connaître ses droits, fait que dans une zone 30, on ne fera plus attention à la circulation parce qu'on se dit, de toute façon, même si j'ai un impact, ça ne sera pas grave. Et c'est ça qui est le problème. C'est que, pour vous dire, un exemple concret, une fille de 2 ans est morte, de 3 ans, pardon, est morte à Lucerne, dans une zone 30, parce que les parents l'ont laissé aller faire du tricycle sur la route. L'automobiliste n'allait pas du 30 km/h.
Alors, on va faire réagir justement Christelle Valla par rapport à ça. C'est vrai que si on sensibilise les automobilistes à rouler moins vite dans ces zones 30, peut-être que les usagers cyclistes et piétons seront de facto un petit peu moins attentifs à la situation, non ?
Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un vélo va rouler à la même vitesse qu'une voiture. Donc, dans une zone 30, ils sont un derrière l'autre. Ils peuvent être un derrière l'autre. Et puis, il n'y a plus besoin de dépasser. Donc, on a un facteur de risque qui s'en va, là, par exemple. Je ne pense pas que... j'arrive pas à imaginer des personnes qui seraient aptes à dire « je vais me faire renverser ». Enfin, je pense que d'avoir un accident, que ce soit à 40 ou à 50 ou à 30 km/h, je pense que... On sait qu'on n'a pas envie d'aller à l'hôpital, en fait. On n'a pas envie d'avoir d'accident. Enfin, je pense que même, c'est quelque chose d'animal, la survie de l'espèce. Je ne pense pas qu'on aille chercher des accidents. Par contre, je pense que c'est plutôt... là, pour l'instant, on est plutôt guidé par de l'insécurité. Et puis, je pense qu'une manière de prôner cette rue pour tout le monde, c'est un petit peu pour mettre un peu tout le monde qui était... Tout le monde a le droit à être dans la rue. Alors oui, après, le but, c'est certainement de pouvoir aussi... se déplacer autrement qu'en voiture. Mais on n'est pas contre. L'idée, ce n'est pas d'être contre la voiture. Ce n'est pas de dire que maintenant, il faut arrêter la voiture. L'idée, c'est de pouvoir juste que tout le monde puisse avoir sa place, en fait, dans la rue.
Voilà pour cette première partie de débat avec les arguments, on va dire, de base des uns et des autres. On va se pencher à présent sur les lieux d'implantation des zones 30. On parle aujourd'hui de deux catégories de routes, celle affectée à la circulation générale et celle non affectée à la circulation générale. C'est dans cette deuxième catégorie que l'on trouve la majorité des zones 30. Mais depuis le 1er janvier dernier, une nouvelle base légale offre la possibilité d'englober des tronçons de route affectés à la circulation générale dans une zone 30 attenante. On parlera peut-être un peu plus tard des aspects légaux, mais en attendant, Christelle Valla, est-ce que vous êtes favorable à une généralisation du 30 km/h au-delà des réseaux dits secondaires ? Autrement dit, jusqu'où faut-il aller dans l'implantation de zone 30 ?
Moi, je pense qu'il faut regarder un petit peu du cas par cas et qu'il faut regarder un petit peu dans quel village on est, où est le centre du village, où sont les écoles, quels sont les trajets pour les piétons, qu'est-ce qu'il y a comme trajet pour les cyclistes, quelle est la fréquentation de la rue. Je pense qu'il y a un ensemble de choses comme ça à regarder avant de prendre des décisions. Pour l'instant, il y a ce 30 généralisé pour les quartiers qui se fait. Il y a beaucoup de villages dans le Jura qui sont en train de l'instaurer. Je pense que c'est une bonne chose et puis qu'on verra un petit peu après comment la population réagit.
Quel est le village ou la ville idéale, selon vous, en matière de zone 30, si on peut peindre un tableau, en fait ?
Que dit la TE ? Sous la main. Après, il y a des exemples du Nord où il y a une politique de réduction de zéro accident, où il y a tout un cheminement qui ont été faits pour que les axes directs soient pour la mobilité douce, puis que les voitures elles fassent le tour, par exemple. Mais je pense que l'idéal, ce serait d'arriver à pouvoir partager la chaussée.
Pascal Prince, on voit véritablement que les bases légales sont simplifiées aujourd'hui pour l'aménagement des zones 30. S'y opposer aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas peine perdue dans le fond ?
Alors oui, c'est peine perdue parce que, les dirigeants ont décidé que qu'on ne pouvait plus, qu'on n'avait plus envie d'entendre le peuple, parce que le peuple suisse s'est prononcé très clairement.
Alors on va y venir,
en 2001. Et aujourd'hui, si vous voulez faire une opposition, vous ne pouvez pas la faire individuellement ni collectivement. Donc, j'avais demandé à M. Ria, lors du débat sur les zones 30, qui voulait mettre à Kourou, comment est-ce qu'on faisait opposition. Il n'a pas pu me répondre, évidemment, puisque vous n'avez pas le droit individuellement de revendiquer un droit à rouler plus vite que les autres. Vous n'avez pas le droit de vous revendiquer d'un droit général. Et quand j'ai fait la dernière campagne avec Mobilitant sur Saint-Bray, M. Ria était heureux de voir Mobilitant s'intéresser au cas de Saint-Bray parce qu'il savait que toute opposition polycopiée passait directement à la poubelle.
Donc Mobilitant.org n'a plus raison d'être, vous allez dissoudre l'association ?
Alors non, j'espère pouvoir faire une votation, changer la loi, redonner du sens à la loi, parce qu'aujourd'hui les autorités peuvent faire absolument ce qu'elles veulent. Elles ont champ libre et les autorités, juste pour vous donner un exemple, le village de Gipf-Oberfrick dans le canton d'Argovie a fait 3 référendums contre les zones 30. Trois fois, le peuple a dit non. Les autorités communales, la semaine dernière, ont dit « c'est pas grave, on va d'abord faire dans ce quartier, ensuite dans ce quartier, ensuite dans ce quartier, et ils ont le droit ». Et donc, on en est aujourd'hui, effectivement, où Mobilitant.org, même si on a eu raison lors de deux, trois oppositions, on a chaque fois resserré la jurisprudence au point qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Donc moi, quand on en arrive à nous dire qu'on est dans un pays légaliste, alors que l'ordonnance sur les zones 30 était intelligente, parce qu'elle demandait que ça soit opportun, que ça soit nécessaire, que ça soit proportionné et que ça puisse éventuellement améliorer la fluidité du trafic. Eh bien, tout ça, on a jeté à l'eau pour que le dogme puisse prospérer absolument partout.
Alors, on va laisser répondre Christelle Valla, mais on va tout d'abord préciser un petit peu les choses. Ce thème d'adhésion à saison 30, dans le Jura, les communes ont la compétence de proposer des implantations. Et c'est le canton, qui est l'organe de surveillance pour l'aménagement et la signalisation des routes publiques, qui approuve ou non par voie d'arrêté. La population, vous en avez touché un mot, Pascal Prince, n'a pas à être consultée, sauf s'il s'agit d'engager un crédit de réalisation. Je vous propose quand même, pour continuer ce débat, d'écouter le maire de Valterbi, commune fusionnée où l'implantation des zones 30 est à l'ordre du jour, Claude-Alain Chapat.
Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'opposition. Nous, on a plutôt eu l'inverse. On a eu passablement de pétitions qui demandaient à ce qu'on passe à 30 à l'heure. Et pour l'instant, je dois dire que les retours sont relativement positifs.
Retour positif, Pascal Prince. À entendre le maire de Valterbi, la population est plutôt demandeuse de zone 30. À Soubé, dernièrement, la volonté des autorités de limiter la vitesse dans toute la localité est bien accueillie, y compris sur la route cantonale. Est-ce que vous prenez acte ou est-ce que vous estimez qu'il y a une majorité silencieuse qui est contre ces zones 30?
Alors moi, je suis le premier, s'il y a un vote favorable, à reconnaître le droit aux citoyens de mettre une zone 30 dans leur village. Mais jusqu'à ce jour, aucune commune jurassienne n'a eu le courage de soumettre son idée, pourtant qui est partagée par tout le monde. Il devrait y avoir zéro
risque. C'est pas de la compétence populaire, justement. Et puis le vote consultatif n'existe pas.
Si, si, il existe.
Pas dans le Jura.
Alors, nous, à Soyer, on a fait un vote consultatif sur la décharge de déchets inertes. On peut faire un vote consultatif.
C'est compétence communale, d'instaurer ou non les votes
Saint-Imier m'avait demandé de l'aide à l'époque parce que le canton voulait mettre une zone 30 à 50 dans la traversée du village. Ils ont fait un vote consultatif. Le canton de Berne leur avait dit « Vous n'avez pas le droit ». Ils l'ont fait et ils ont dit qu'ils en tiendraient compte. La population de Saint-Imier a voté contre. Donc, il faut à un moment donné, quand même, remettre le contexte là où il est. On est en Suisse, dans le pays le plus démocratique du monde. Si on n'est pas capable, ici, de pouvoir donner la voix au peuple pour des raisons juridico-... Vous n'avez pas le droit de parler parce qu'on n'a pas envie que vous parliez, parce que c'est uniquement ça. On a le droit de voter sur tout, mais ça, on n'a pas le droit.
Que la population adhère, apparemment.
Qu'ils fassent un vote. Qu'ils fassent un vote. Alors, n'attends que ça depuis des années.
On va faire réagir quand même Christelle Valla. Le fait qu'on ne sache pas toujours, dans le fond, ce que la population en pense, est-ce que ça ne pose pas un problème?
Alors moi, il me semble que la population peut bien dire ce qu'elle en pense. Il me semble que les autorités sont quand même aussi à marcher un petit peu sur des œufs, suivant ce que la population, elle pense. Je pense que... Alors, on a suivi le dossier là, pour la commune de Valterbi, avec une rue en particulier. La commune, elle était plutôt embêtée par rapport à cette prise de position. Donc moi, j'ai l'autre côté, en fait, finalement. J'ai les personnes qui viennent me voir, ce sont des personnes qui ont envie du 30 km/h et qui sont plutôt dans des démarches où c'est long, où la commune ne répond pas à leurs demandes, etc. Donc moi, j'ai l'autre version.
C'est une question d'interprétation, finalement, Pascal Prince.
Alors, typiquement, j'ai fait une initiative populaire à Develier. J'ai récolté en une seule et unique journée 118 signatures contre la zone 30 dans le quartier. À l'Assemblée communale, les autorités communales m'ont accordé 5 minutes jusqu'au quart d'heure avant la séance. À un quart d'heure avant la séance, ils m'ont dit « on t'autorise 3 minutes de discussion ». Pourquoi les gens, il y avait 69 personnes à l'Assemblée, pourquoi les gens ne sont pas venus? Parce que la commune a tous les moyens de rétorsion. Alors, je veux bien qu'on n'est pas en Corée du Nord ou je ne sais pas quoi, mais les gens doivent faire opposition à une volonté des autorités communales. Et quand vous vous opposez aux autorités communales, vous vous mettez dans un camp bien précis, celui des empêcheurs de tourner en rond. Et je suis désolé, c'est pas pour rien que j'avais créé l'association mobilitant.org, c'était pour éviter aux gens normaux qui veulent juste du bon sens, qui veulent juste qu'on maintienne le 50 généralisé qui n'est pas un droit à rouler à 50 km/h, mais qui est une possibilité selon des circonstances. Et qui aimerait juste qu'on garde le bon sens. Et bien ces gens-là, ils n'ont pas envie de se retrouver en porte-à-faux vis-à-vis de leur maire, vis-à-vis de leurs conseillers communaux, etc. Moi, je peux vous dire que j'ai reçu des menaces de suite pénale de la part d'une commune à Joulotte parce que je m'occupais des affaires de la commune. Donc, on n'est pas du tout dans un bon débat comme on est ici, où on peut tranquillement parler les uns les autres. C'est vraiment compliqué.
Alors, pour avancer dans le débat, le canton du Jura, et c'est assez particulier, Christelle Vallet, vous avez vous-même employé ce terme tout à l'heure, le canton du Jura nous dit « on réfléchit au cas par cas ». On ne généralise pas. Donc, de fait, comment est-ce que vous interprétez cette phrase ? Est-ce que c'est finalement une bonne manière de faire ? On prend dossier après dossier plutôt que d'instaurer une politique générale qui pourrait aussi être, pourquoi pas, des réticences à ces projets de zone 30. Comment est-ce que vous vivez ces déclarations ?
Oui, alors le prendre au cas par cas, c'est toujours intéressant parce qu'on regarde qu'est-ce qui se passe et puis on regarde qu'est-ce qui serait le mieux de mettre à ce moment-là. Mais après, ça fait aussi de faire d'une manière généralisée, ça permet juste de mettre ça de partout, puis on arrête de se questionner, puis on avance en fait. Donc ce travail du cas par cas, il met aussi en avant beaucoup de craintes, beaucoup de peurs, et puis du coup ça peut avoir une influence où on travaille beaucoup plus lentement.
Vous êtes quand même contre le passage en force, là, un petit peu dénoncé par Pascal Prince.
Alors, je suis complètement contre le passage en force. Je pense que c'est très important de discuter avec la population et je serais plutôt pour rentrer dans des démarches participatives.
Justement, quel rôle peut jouer l'ATE Jura justement dans les discussions communales entre autorités communales et la population ?
L'ATE Jura peut prendre le temps de discuter avec, par exemple, des pétitionnaires qui souhaitent avoir du 30 km/h. Elle peut les rencontrer, elle peut les aider, elle peut les soutenir. Et puis après, elle peut rencontrer la commune avec des arguments peut-être un petit peu plus précis ou bien plus dirigé sur la santé, sur sortir des statistiques ou des choses comme ça. Donc elle peut vraiment faire le tampon entre les deux, quand ils n'arrivent plus à se comprendre ou quand on est sur des niveaux différents.
Pascal Prince, on a parlé de procédures simplifiées pour aménager des zones 30. Une commune qui dit simplement qu'elle veut améliorer la qualité de vie de ses habitants, ça peut suffire, même s'il y a des formulaires à remplir qui font en quelque sorte office d'expertise. Comment est-ce que vous réagissez à cela ? Est-ce que trop simplifier la procédure, c'est mettre un frein aux réflexions sur la réelle utilité de ces zones 30 ?
Alors absolument, c'est aucune réflexion, c'est aussi simple que ça.
C'est exagéré de dire aucune réflexion.
Non, il y a aucune réflexion là-dessus. C'est d'ailleurs, j'ai participé en Belgique à un congrès international sur les zones 30. C'est une volonté politique générale. L'Organisation mondiale de la santé l'a d'ailleurs pris dans son programme pour les mesures pour la bonne santé du monde pour 2030. Et ils espèrent que d'ici 2030, la totalité des rues du monde soit en zone 30. C'est aussi ce que voulait la TE à l'époque. Nous sommes rassure, ils ont l'air d'être un peu moins extrémistes. Mais par contre, alors c'est très simple, hein, la stratégie du salami, on casse les petites oppositions. C'est beaucoup plus facile de casser l'opposition de Pascal Prince à Develier que de faire un gros projet, de mettre tout le canton et que là, on a le droit de faire un référendum. De là, on a le droit de donner notre avis. Donc, c'est une politique tout à fait.
La configuration n'est peut-être pas la même entre toutes les communes jurassiennes pour généraliser ça.
Alors, de toute façon, je ne me fais pas d'illusions. S'il n'y a pas des partis politiques qui, malheureusement, ne veulent pas s'engager là-dedans, s'il n'y a pas une organisation plus importante que Mobilitant.org qui prend le relais, moi, je donne jusqu'à 2030 et toutes les communes Racine sera 30 à l'heure, hein. C'est 100% bénéfice pour les autorités. Donc c'est pouvoir encaisser de l'argent, prétendre faire la sécurité routière, alors que c'est pas vrai. Et ensuite, les automobilistes sont piégés. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Tout sera en zone 30 d'ici 5 ans.
L'horloge tourne. Le mot de la fin, c'est pour vous, Christelle Vallet. Des zones 30 également sur les axes principaux, c'est une possibilité. Est-ce que ce n'est pas quelque part inciter les automobilistes à emprunter des routes parallèles et donc de créer des nouveaux problèmes si on décide par exemple de contourner ce 30 et d'aller dans des zones résidentielles ?
Ah oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que les axes parallèles soient aussi à 30 km/h.
Donc on parle là quand même de généralisation. C'est quand même un idéal
pour
vous.
Si, il y avait une généralisation. Est-ce que c'est un idéal pour moi ? Mais je vois pas. Pour l'instant, je ne vois que ce qu'on peut y gagner. Y gagner du confort, y gagner moins de bruit pour ceux qui habitent à côté, y gagner de la sécurité, parce que quand même, quand on avance, ben, on va réagir plus vite si on avance moins vite. Enfin, on va faire une moins grande distance si on est à 30 km/h que si on est à 50 km/h. Donc oui, je vois que des aspects positifs. Donc pourquoi pas généraliser tout ça pour une perte de temps qui est vraiment infime, en fait, qui n'est même pas tellement ressentie. Quand on fait de la vitesse moyenne qu'on peut avoir, même dans le Jura, entre deux villages, on est à 40-50 km/h, quoi. Dans le Jura, je ne vous parle pas d'en ville.
Parle du Jura, effectivement. Eh bien, le débat est intéressant. On va encore en entendre parler dans de nombreuses communes jurassiennes, assurément. Nous sommes donc au terme de cette émission. Christelle Vallet de l'ATE Jura, Pascal Prince de l'association Mobilitant.org. Merci d'avoir participé à Pure Politique, édition que vous retrouverez en intégralité sur rfj.ch. Excellente soirée à vous deux.
Merci.
Merci, RFJ.
Pure Politique sur RFJ.